France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Gaza, 365 km², à peine 2,3 millions d'habitants enfermés derrière un blocus depuis 2007, est devenu l'épicentre d'un drame qui dépasse de loin son territoire. Alors, pourquoi cette étroite bande de terre suscite-t-elle une attention mondiale quand d'autres guerres, au Soudan, en RDC, au Yémen par exemple, sombrent dans l'indifférence? Est-ce parce qu'il condense les héritages du XXe siècle ou bien parce qu'il incarne déjà les guerres du XXIe, technologie médiatisé, instrumentalisé, conflit local ou miroir planétaire? Pourquoi la guerre menée par Israël est-elle un conflit à part? Pourquoi Gaza n'est-il pas un conflit comme les autres? Pour en discuter, deux invités. Véronique Naumgrapp, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse en sciences sociales, en anthropologie. Je signale la parution dans la revue Esprit du mois de juillet d'un article que vous signez intitulé « Porter haut et fort la dénonciation des crimes commis à Gaza ». Face à vous, Vincent Lemire, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur à l'université Gustave Eiffel, spécialiste de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Vous ferez paraître le 18 septembre prochain avec le géographe Christian Grataloup un atlas historique du Moyen-Orient. C'est aux éditions des Arènes. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Alors pourquoi mettons relativement plus la lumière sur Gaza, les horreurs et les drames qui s'y multiplient, plutôt que sur d'autres guerres? Si l'on prend le Soudan par exemple, théâtre d'un conflit depuis le 15 avril 2023, la famine y a été déclarée dans 5 zones, elle touche 44 millions de personnes, 150 000 personnes sont mortes en 2 ans, 150 000 au moins, 13 millions ont été déplacées. C'est un argument que l'on entend de plus en plus, les Gazaouis, alors que l'on serait plus insensible au sort des Soudanais, des Ouïghours, des autres. Comment vous l'expliquez, Véronique Naumgrapp?
Alors, il y a deux points contradictoires. Il y a le point de vue universaliste, kantien, qui serait de dire c'est pas parce qu'un conflit est aux antipodes que je dois être indifférente à ce conflit aux antipodes. Donc, je dois également être sensible ou pas aux conflits gravissimes qui ont lieu en même temps sur la planète ou qui ont eu lieu dans l'histoire et que je ne dois pas oublier. Premier point. Deuxième point, quand on se rapproche d'un conflit où il y a cette espèce de trou noir qu'on va appeler pour le moment extermination, génocide, on ne va pas se disputer sur les mots. Mais le trou noir du massacre de masse, quel qu'en soit le contexte idéologique, quand on s'en rapproche, qu'on travaille dessus, on se rend compte qu'il y a comme une exclusivité. Il est jaloux de génocide. Si vous dites aux victimes rwandaises « Excusez-moi, chers amis Tutsis, maintenant je vais m'intéresser au Soudan », vous allez les blesser à mort. Il y a une espèce de... Et en plus, il y a cette espèce de logique non kantienne, hélas, mais que faire, qui fait que ce qui est proche vous touche. Et regardez, prenons un médecin. Il a 50 malades autour de lui en train de hurler à la mort. Il peut pas les traiter en même temps. Donc il va traiter celui qui est à côté de lui en premier, qu'il ne mérite peut-être pas. Et disons que, en un troisième point, moi je pense que on n'est pas des héros. Souvent, je vois que les gens sont sensibles à des causes parce qu'ils ont eu de la famille jadis, pour des raisons mythologiques, pour des raisons peut-être névrotiques. Et ne culpabilisons pas. Regardez les milliards de gens sur la planète. Quel dommage qu'ils ne s'intéressent pas tous ensemble aux crimes contre l'humanité qui ont lieu à côté d'eux, parce qu'ils peuvent faire quelque chose. Parce qu'enfin, point central pour moi, c'est la question du gérondif des crimes en train d'être commis. C'est-à-dire, c'est deux choses différentes. Ils sont en train, aujourd'hui même, à Gaza, dans la ville, 44 morts, les bombardements, l'armée qui avance, les gens qui s'enfuient, aujourd'hui même. C'est en train d'arriver. Donc, ça nous mobilise. Non, c'est en train d'arriver aussi au Soudan. Et si je vais demain au Soudan, je serai hantée par le Soudan, mais j'abandonnerai les Gazaouis. Donc, il y a deux problématiques discordantes, mais au fond, les sciences sociales, à mon avis, du point de vue de l'anthropologue, peut-être opposé à celui de l'historien, fonctionne avec des strates de réalité discordantes qui ne se réconcilient jamais, sauf peut-être au cimetière, là on aura la paix.
Je comprends ce que vous dites d'un point de vue individuel, Véronique Naumgrapp. Dans le fond, vous vous intéressez personnellement plus à Gaza qu'au Soudan ou à d'autres conflits. Mais comment expliquer que des sociétés entières se tournent vers ce conflit-là en particulier, Vincent Lemire?
Alors, d'abord, on peut, puisqu'on parle du Soudan, on peut. C'est vrai que c'est un exemple qui est parfois souvent cité. Le Soudan, c'est 50 millions d'habitants. Gaza, c'est 2 millions d'habitants. Donc, les chiffres que vous avez cités, qui sont tout à fait justes, doivent être rapportés quand même à une population. À Gaza, aujourd'hui, on a plus de 3% de la population qui est morte. Ce qui correspondrait à 2 millions de morts en France. Moi, je donne toujours une échelle avec la France. Il y a plus de 200 000 blessés et amputés. Ce serait 6 millions de blessés et amputés en France. Et ce serait 60 millions de déplacés, quoi. Donc voilà le genre de ratio dont on parle. Et puis parlons de... Au-delà, parce que le quantitatif est terrible et il est catastrophique dans cette affaire, essayons de qualifier qui est mort, qui est blessé. Il y a 80% de civils morts à Gaza. C'est des chiffres absolument incomparables dans tous les conflits contemporains. Le Soudan, c'est 23% de victimes civiles. Le Kosovo, c'est 20%. La Syrie, c'est 20%. L'Irak, c'est 17%.
Et l'Ukraine, on ne sait pas.
L'Ukraine, je l'ai pas. Je crois qu'on était. Mais je crois qu'on est. C'est assez comparable. 80% de civils, 60% de femmes et enfants. Donc, on est bien quand même dans un conflit qui n'est pas comme les autres. Et puis ensuite, donc ça c'est voilà pour comparer avec les Soudans, le Soudan. Puis après on peut dire bon ben cette région c'est une centralité géographique, c'est le lien entre l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Orient et l'Europe. C'est une centralité culturelle. C'est quand même plus de 50% de l'humanité qui a des racines culturelles et spirituelles dans la région. C'est une tarte à la crème de dire berceau commun des trois monothéismes. Mais que je sache, c'est pas chez les Ouïghours ou au Soudan que ça se passe. C'est comme ça. Et donc il y a effectivement cette question de la proximité. Culturel, sociologique. Donc il y a des raisons évidentes. C'est aussi la communauté internationale qui a paramétré ce conflit. C'est aussi l'Europe qui a des responsabilités. Donc c'est vraiment une petite musique qu'on entend toujours, qui va toujours dans le sens en fait de relativiser ce qui se passe à Gaza, hein. Pas du tout de nous intéresser plus à ce qui se passe au Soudan.
C'est moins pour porter la cause du Soudan que pour entre guillemets délégitimer l'intérêt pour Gaza.
Oui, généralement quand on voit de quel côté ça part, c'est ça. Hein. Moi, j'étais en Éthiopie il y a 2 ans. Je me suis beaucoup intéressé à ce qui se passe en Éthiopie, mais en Éthiopie c'est la même chose. Ça reste quand même des guerres, on va dire relativement classiques, avec des hommes qui tuent des hommes. Il y a à peu près 20% des victimes qui sont des hommes et des combattants. Il y a 20% des civils des victimes en Éthiopie qui sont des civils. Donc à l'inverse, 80% qui sont des hommes et des combattants. Donc voilà, le conflit de Gaza est quand même un conflit tout à fait particulier.
La voix de Bernard-Henri Lévy, il était l'invité de BFM TV le 30 juillet dernier. Il fait justement la comparaison entre Gaza et le Soudan.
Si en effet le peuple soudanais, ses 150 000 victimes au bas mot, probablement 200 000, 250 000, étaient victimes d'une armée juive, je pense en effet que vos plateaux en serait envahi. Là, il y a une espèce d'idée, honnêtement, presque raciste, que tant que ça concerne un peuple africain et qu'ils se chamaillent les uns contre les autres et qu'ils s'entretuent, ça ne nous intéresse pas. Et il y a l'idée, en revanche, que quand l'État d'Israël et une armée juive sont dans l'histoire, là, ça embrase des passions ancestrales. Mais je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus.
Comment est-ce que vous analysez ces propos, Véronique Naoum Grab, ces passions ancestrales?
Oui, disons que moi, ce que je voudrais dire là, c'est que on parle toujours de ce qu'on croit que les autres pensent, mais les autres, ils ont 24 heures dans la journée déjà pour penser des tas de trucs différents. Par exemple, moi, je peux penser et beaucoup aux femmes afghanes. Je peux penser beaucoup. Même est-ce que Bernard-Henri Lévy pense aux femmes afghanes? Oui, certainement.
Peut-être.
Je peux penser, oui, certainement. Je peux penser beaucoup à des situations, à ce qui se passe aux États-Unis. En réalité, on est tous polycentrés. Et selon les moments, on est obsédé par un trou noir qui vient, et c'est en même temps et c'est symphonique. Il y a tous les instruments de l'orchestre. On n'a qu'une seule vie, on n'a qu'une seule journée, et on a ce monde autour de nous. Et qu'est-ce qui fabrique, et qu'est-ce qui s'y passe, et d'où vient le bruit, et où coule le sang. Et je reviens à Gaza, ce qui se passe avec Gaza, de vertigineux, même pour quelqu'un qui serait en Chine ou Australopithèque, ou je sais pas, au fin fond du désert de Namibie. C'est quoi? C'est que depuis 1948, c'est incroyable, cette espèce de répétition du même. On a retrouvé récemment ce texte magnifique de Deleuze, 1983, où il dit voilà, Israël va traiter d'antisémite, quiconque vous critiquera sa politique, va tenter d'exterminer les Gazaouis en les éliminant. Bien sûr, on dira que c'est pas un génocide parce que l'extermination n'est pas la fin, mais le moyen. Est-ce mieux quand l'extermination est le moyen? Un texte de 1983, il dit tout. Et je me dis, depuis que c'est toutes ces années, ces décennies, où d'un côté, le temps fabrique le fait que la tragédie des Palestiniens en Israël devient, on y est tellement habitué, on vit avec, on le met comme un blocos où il y a un cœur en fission, un cœur en fusion, très dangereux, mais on l'éloigne dans le paysage, et les gens n'y pensent plus tout en y pensant. On est obsédé par Gaza, pas du tout, si les gens réalisaient ce qui est en train de se passer. J'ai lu un texte, on dit, on n'a même pas l'ombre, ni l'eau, ni la nourriture, chassé tout le temps, en emportant des hardes, courant pour là, et on a ce soleil de plomb, ce soleil assassin. On n'a même pas d'ombre où se protéger. Les Français qui ont tellement peur de la canicule, ils devraient un petit peu réfléchir à ça. Donc je voudrais juste dire que la répétition et l'immobilité, le fait qu'on n'a pas pris en compte dans la géopolitique internationale la question des violations des droits humains, et c'est vrai aussi en Russie et dans l'Ukraine, on ne la prend pas en compte, on la met de côté dans l'humanitaire, le compassionnel, le truc pour bonne femme, fait qu'on a accepté pendant des décennies les violations des droits humains, un truc qui n'était pas juste, qui dit pourquoi les Palestiniens seraient coupables de la Shoah. Non, ils n'ont rien à voir avec cette histoire. Et donc, pourquoi culpabiliser tout le monde? Dès qu'on critique Israël, on devient coupable d'antisémitisme, etc. Ce mécanisme, on n'en peut plus. Et pourquoi? Et parce qu'ils profitent de ce cauchemar qu'a été le grand génocide perpétré par les nazis, et que le 7 octobre, tout à coup, a fait ressurgir des gens sangloter une odeur de nazisme, se suinter des crimes du 7 octobre.
Des crimes commis par le Hamas.
Oui, et vous avez des gens qui ont fait des cauchemars, et tout à coup, cette espèce d'énorme chape de tabous sacrés négatifs qui est plus jamais ça, et quelle horreur le génocide des nazis, est redevenu comme une menace énorme sur le petit peuple d'Israël. Et ça a fonctionné à fond. Mais peut-être que maintenant, vu ce qui se passe à Gaza, il faudrait commencer à dire « Oh là, chers politiciens d'Israël qui êtes au pouvoir, vous n'avez pas subi la Shoah, et en particulier, vous aimez bien la bonne vie, vu tous les procès. »
Alors,
qui vous menace dès que la guerre se va s'arrêter.
Vincent Lemire, l'autre point important, fondamental, même la différence entre Gaza et le Soudan, est-ce que ce n'est pas l'implication occidentale, le rôle peut-être que joue l'Occident dans la partition de cet ensemble géographique depuis au moins 1917, depuis Balfour?
Mais c'est une des raisons qui font que la communauté internationale continue effectivement de se mobiliser sur ce sujet-là, parce que
elle est actrice directe.
Mais elle est actrice depuis le début. En fait, elle a généré et elle a paramétré ce conflit, si on parle du conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire elle a agencé l'affrontement de ces deux projets nationaux concurrents, le projet national palestinien et le projet national sioniste. Donc, la déclaration Balfour, évidemment, le fait que la Société des Nations, après, en confiant le mandat aux Britanniques, a endossé cette déclaration Balfour. Je rappelle que dans la déclaration Balfour, c'est une petite lettre, très courte, c'est un petit peu comme la lettre du président Macron à Abbas, on ne sait pas si ça aura la même incidence historique, mais Balfour promet la création d'un foyer national juif en Palestine, et puis il ajoute dans la phrase suivante que ça ne pourra pas porter préjudice aux communautés non-juives de Palestine. Donc on voit bien qu'il y a des promesses de la communauté internationale qui était en train de fabriquer le droit international et le droit à l'émancipation et à l'autodétermination des peuples. Il y a des promesses qui ont été faites, certaines ont été tenues et d'autres n'ont pas été tenues. Ensuite, on a le plan de partage, ensuite on a le vote à l'Assemblée générale de l'ONU en 1947. Donc, en fait, la communauté internationale est directement mouillée. Elle ne peut pas, en fait, se départir de ce conflit. que je sache, au Soudan, aux Ouïghours, elle a un petit peu moins trempé dans les origines du conflit. Donc c'est là aussi qu'il y a vraiment une malhonnêteté terrible dans ce qu'on a entendu chez BHL à plein de niveaux. Mais en plus, il dit oui, tant que c'est des Africains qui... Mais je veux dire, le Rwanda, on en a beaucoup parlé. Et heureusement, et on continue d'en parler. Et d'ailleurs, et pourquoi? Et on en a parlé en particulier quand il s'agissait de réfléchir aux implications de la France et à ce qu'elle avait fait et surtout pas fait. Donc,
mais
on
réfléchit aussi. C'est pour cela qu'on en parlait particulièrement.
Bien sûr.
Pour cette raison.
Mais c'est normal. En fait, je veux dire, on est sur le service public, on est des citoyens, on est des électeurs, et donc on interroge aussi nos responsables politiques. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas, et qu'est-ce qu'ils doivent faire au Rwanda. Et voilà, je suis pas sûr que effectivement au Soudan ou pour les Ouïghours, la France ait particulièrement une carte à jouer dans ce conflit. Donc non, c'est vraiment très très malhonnête. Mais bon, c'est encore une fois, c'est l'occasion en fait d'expliquer pourquoi est-ce que Gaza est un conflit tout à fait hors norme.
Véronique de Homgrap.
Oui, moi je dirais, donc de mon point de vue non historique, que aux victimes du Soudan, dans les régions du Kivu, les viols effroyables qui ont eu lieu, et d'ailleurs à la suite de 95, l'opération turquoise, donc là l'histoire doit être faite. Mais disons, moi je demande pardon aux victimes soudanaises de ne pas me mobiliser pour elles comme elles le devraient. Je ne suis pas dans un état pacifié, stabilisé intérieurement, de dire bon, je m'occupe de ceci et pas de cela. Mais le défenseur des droits humains, donc, ne peut pas défendre tous les cas à égalité, c'est n'en défendre aucun. Alors, pour revenir donc à Gaza, pourquoi on est tous poignardés? On est poignardés pour des raisons que même dans une pièce de Shakespeare, on dirait il va trop loin, on va l'enlever ça, que la collectivité victime majeure d'un génocide qui a obligé la communauté internationale à inventer le mot génocide pour faire la prévention des génocides, devient à une politique où elle met une population dans des ghettos. Ça ne date pas de cette guerre-là, la maltraitance des Palestiniens. C'est toute une histoire. Et avec l'impunité et l'acceptation de l'État de fait pour mille raisons, petit à petit, on est beaucoup moins... On tire vers le pire. C'est-à-dire Ben Gourion était beaucoup plus juste et intelligent. Et maintenant, on a vraiment au pouvoir en Israël, puisque voilà, les Israéliens sont comme tout le monde, puisque personne n'est antisémite, donc ils ont le droit d'avoir une extrême droite cruelle, obtuse et assassine. Et donc, ils ont... Moi, je respecte l'État d'Israël. Je pense que c'est une démocratie. Il y a d'immenses manifs. Il y a des textes admirables d'Israéliens qui luttent contre ce pouvoir infâme qui les piétine, parce qu'Israël va être en danger à ramasser toute cette espèce de haine autour d'elle. Et donc, je reviens à ce pouvoir avec les décennies qui passent et l'impunité. On appuie sur la pédale du pire. Mais on pouvait déjà... Vous savez, quelqu'un comme... Je pense toujours à cet exemple, vous savez, dans la dispute sur le mot génocide, etc. Vous avez l'auteur de L'Espèce Humaine qui, quand il était Robert Antelme, qui savait de quoi il parlait, et quand il y avait une manif pour un chat écrasé, il y allait comme un fou en disant, faut pas qu'il y ait même l'arôme, même l'idée, même l'écho, même la possibilité que cette horreur revienne. Et il le sentait même en amont. Alors que maintenant, vous n'entendez que des gens qui disent « ce n'est pas un génocide, si ce n'est pas un génocide, c'est moins grave, etc. etc. » Donc si vous voulez, ce qui se passe et qui nous vrille et qui vraiment devrait... et à juste titre hanter les Européens, c'est qu'est-ce qu'on a fabriqué et qu'est-ce qui est en train de se passer. Et chaque jour est un jour d'infamie. Il y a de quoi faire des grèves de la faim, il y a de quoi... Il y a quelqu'un en ce moment là qui est dans un quatrième tout seul, jour de grève de la faim tout seul dans son coin. À cause de ça, on les prive de nourriture, ça me coupe l'appétit, dit-il. Et donc, si vous voulez, ça rend les gens un peu fous. C'est que cette population israélienne, que ce pouvoir israélien fasse ça, ça nous rend tous un peu fous.
Est-ce que, Vincent Lemire, si des centaines de millions de personnes se sont poignardées aussi à travers le monde par ce conflit à Gaza, c'est parce qu'il s'agit d'un conflit colonial, d'un conflit où la matrice coloniale et décoloniale est omniprésente?
Ben, c'est un conflit colonial et national. C'est un conflit national et colonial. On est obligé de tenir les deux. Ce qui nie la dimension coloniale du conflit et qui ne parle que du projet sioniste et du nationalisme juif. oublient une partie du conflit. Ceux qui disent que c'est seulement un conflit colonial comparable à la guerre d'Algérie oublient qu'il y a des racines juives dans la région et que sinon ce serait réglé depuis longtemps, j'allais dire.
Donc il faut tenir les deux ensemble.
Il faut absolument tenir les deux ensemble. Mais vous avez raison. Donc c'est une fois qu'on a dit que c'est un conflit national et un conflit colonial, donc c'est aussi un conflit colonial. C'est un conflit colonial qui est effectivement déplacé dans le temps. C'est aussi pour ça qu'il résonne si fort parmi les ex-pays colonisés et qui font reproche à l'Europe de ne pas se mobiliser sur ce conflit. Il y a aussi dans l'histoire, bon, il y a cette question évidemment de cette question génocidaire de la Deuxième Guerre mondiale qui fait comme un court-circuit. Mais par exemple, si on se décale un peu en Allemagne, la qualité du débat en Allemagne est bien meilleure qu'en France. L'Allemagne a décrété par exemple un embargo sur les ventes d'armes en Israël. Il faut savoir que l'armée israélienne, c'est une armée pour 2/3 états-unienne et 1/3 allemande. Hein, donc l'embargo sur les armes décrété par le chancelier allemand, ça a fait un bruit en Israël, mais inimaginable. Et en Allemagne, on a cette fameuse notion de la sécurité d'Israël comme raison d'État, hein, qui est donc voilà transpartisane, etc. C'est au nom de la sécurité d'Israël qu'il y a aujourd'hui des débats extrêmement radicaux à la mesure de la situation en Allemagne, qu'on n'arrive pas à avoir en France, qui est que moi j'essaye de poser depuis le 8-9 octobre, c'est de dire il faut ceinturer les dirigeants israéliens, et y compris d'ailleurs les citoyens israéliens qui ont soif de vengeance. Il ne faut pas forcément leur parler à l'oreille parce qu'ils ne sont pas forcément en état de nous entendre. Par contre, il faut les ceinturer, y compris pour les protéger contre eux-mêmes. Hein, et c'est ce que disent d'ailleurs beaucoup d'Israéliens aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a des histoires. C'est pas si simple. C'est pas l'Allemagne n'est pas si en retard que ça. Hein, conceptuellement, elle est plutôt en avance. Elle a décrété cet embargo sur les armes. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, c'est compliqué parce que c'est l'ancienne puissance coloniale pour le coup au sens strict, puisque c'est eux qui avaient le mandat. Et donc, mais ils sont en train de bouger aussi. Et puis il y a la France. Donc voilà, qui n'a pas les problématiques allemandes, qui n'a pas les problématiques britanniques, mais qui a de très très loin la première communauté juive d'Europe, de très très loin la première communauté musulmane d'Europe, qui a un siège permanent au Conseil de sécurité, donc c'est le seul siège européen, qui a des liens très forts avec Israël et la Palestine historiquement. Donc la France, à l'évidence, a une responsabilité particulière. Donc voilà, mais aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est frappant, c'est de voir que il y a le président de la République qui a pris cette décision sur la future reconnaissance, mais ce qui me frappe, c'est l'affaissement du débat public en France. Il n'est pas de bonne qualité. Vous voyez, quand on en est encore à devoir discuter d'une sortie de BHL qui nous fait voilà une sortie un petit peu obscène sur le Soudan, c'est une façon d'aborder le débat, mais on le place pas au bon niveau. Et c'est ça on perd beaucoup de temps, en fait, à débroussailler le débat, parce qu'en France, il est pollué par plein de sujets qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe en Israël et à Gaza, en réalité.
Véronique Naoumbra, qu'est-ce qui mobilise aussi dans ce grand ensemble un peu impropre qu'on appelle les pays du Sud ? Est-ce que c'est véritablement, fondamentalement la cause palestinienne, le sort des Gazaouis, ou c'est une forme aussi d'anti-occidentalisme, d'anti-américanisme plus encore ?
Alors, premier point, évidemment, qu'il faut mettre en contexte, c'est l'élection de Trump. Le nouveau président américain, hélas, va être un allié terrible de la politique de Netanyahou, qui nous rend tous, France y compris, impuissants, puisque donc les 2/3 de l'armée israélienne sont nourris par la plus grosse armée du monde. Donc ça, on est vraiment dans une situation terrible. Il faut voir le rapport de force, il faut établir. Alors, les pays du Sud, c'est le Sud, ça devient un énorme continent gigantesque, on mettrait l'Inde, etc. Moi, je pense que, d'abord, les pays du Sud, le Sud global rassemblé que Poutine voudrait rassembler derrière lui, ce ne sont pas les pays du Sud, ce sont les dirigeants des autocraties et des pires dictatures de la planète. Il a les Iraniens, c'est pas tellement au Sud, donc ok, la Corée du Nord, tout ça, mais il n'est pas tellement au Sud, il est surtout le représentant des pires dictatures de la, de la planète et il fait sa séduction politique en essayant anti-occidentale. Donc, il y a quelques malheureuses démocraties qui essayent de ne pas se noyer. Et donc, sur cette espèce de terrain facile de l'abominable colonialisme qui a eu lieu, c'est vrai, de la part de l'Europe pendant 3 siècles dans le continent africain. Mais je pense que ça, c'est une chose qu'il faut séparer de la question qu'est-ce que pensent les gens. Vous savez, c'est la question de l'ethnologue. Il ne peut pas répondre. Parce que c'est très difficile, on dit il pense ceci, il pense cela. C'est ce qu'on dit, ce qu'on croit penser. Et à minuit, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'à midi. Et moi, je pense que par contre, il y a un effet de solidarité qu'on ne peut que constater, c'est que les cultures, les populations de cultures musulmanes en Moyen-Orient, en Afrique et encore ailleurs, ont une solidarité avec les Palestiniens, très profonde, très populaire, et je dis bien de culture musulmane, je ne parle pas de groupe,
et pourtant,
je déteste le Hamas.
Pourtant, ils ne se mobilisent pas pour les Ouïghours, qui sont également musulmans.
Oui, et puis, bien sûr, et d'autre part, je signale aussi que quand il y a eu des grands massacres de camps palestiniens, comme à Yarmouk, près de Damas, entre 2012 et 2015, où là, c'était l'armée syrienne, les avions russes et au final les couteaux de Daesh lâchés au dernier moment, c'était le plus grand camp palestinien, 150 000 personnes, c'était la New York de la diaspora, disait Arafat, un endroit absolument extraordinaire, ils ont été assiégés, affamés comme maintenant Gaza, mais affamés dans des conditions pendant 3 ans, après bombardés et après égorgés. Et Yarmouk, maintenant, je l'ai visité, c'est des ruines qui sont contentes de repeupler. Donc, je veux dire que ce qui est arrivé aux Palestiniens n'est pas seulement le fait. Il faut faire l'histoire pas à pas. Il y a un abandon des Palestiniens. Parce que quand une population n'a plus de pouvoir, quand elle n'a plus d'identité, quand les personnes sont réfugiées, elles ne votent plus, plus aucun politique ne s'intéresse à elle. Un réfugié, un exilé, c'est quelqu'un qui n'a plus aucun poids politique puisqu'il n'a plus de vote. Et donc, sa vie n'est plus importante, mais sa mort non plus. Et on voit, et comment ont été traités les Palestiniens ailleurs qu'en Palestine depuis 50 ans dans les différents endroits où ils ont été, comment ils sont. Et donc, si vous voulez, ça, ce serait une vaste question, vous voyez. Mais pour revenir au fait que en ce moment, la tragédie à Gaza et en Cisjordanie a démontré au bout de 2 ans que la guerre choisie après le 7 octobre n'est pas une guerre de justice, n'est même pas une guerre de vengeance, c'est une guerre de mise en place du grand Israël en Cisjordanie, comme avec l'extérieur. Et c'est là où c'est infâme, et on comprend pourquoi ils tuent les 200 journalistes et pourquoi ils ne veulent pas de journalistes. Signature du crime. Pourquoi ils les tuent, ils les ciblent, outre le fait ils détruisent tout le bâti en Palestine est très serré. C'était depuis le 12e siècle, patrimoine de l'humanité. Ils détruisent tout ce qui fabrique du social. Tout est détruit. Donc, pour qu'il n'y ait pas de retour. Et donc, ça, c'est quelque chose. C'est même pas il y a les conditions de vie qu'on fait aux gens, infâmes. Mais il y a aussi ce qu'on fabrique et on tue les journalistes pour qu'ils ne le dénoncent pas. Donc, si vous voulez, cette fabrication du grand Israël dans une violence extrême, ça, c'est une histoire de notre présent. Et on ne peut pas ne pas au moins le dénoncer, au moins ça.
Une histoire de notre présent, Vincent Lumière, je demande ça à l'historien, est-ce que ce n'est pas aussi une guerre de demain, une guerre du 21e siècle, parce que c'est une guerre au fond de surveillance, une guerre technologique, une guerre où le drone a une place omniprésence, où l'intelligence artificielle est déjà utilisée, bref, presque un territoire d'expérimentation en matière militaire.
Oui, un laboratoire, complètement. Je vais vraiment répondre à votre question, je voulais juste abonder dans ce que vient de dire Véronique Naumgrab sur la question des réfugiés, des apatrides, des exilés. De ce point de vue-là, la décision française de la reconnaissance d'un État de Palestine est tout sauf symbolique, parce que derrière un État, il y a des citoyens. Et éventuellement porteur d'un passeport qui sera reconnu par des États comme la France, la Belgique, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie. Ça veut dire qu'ils pourront voyager. Ça veut dire que c'est absolument pas symbolique. Ça veut dire que les citoyens de Palestine, de cet État de Palestine, auront des droits de se déplacer, des droits juridiques, des capacités juridiques qu'ils n'ont pas encore aujourd'hui. Donc voilà, c'était vraiment pour aller dans ce sens-là. Et quelle que soit, j'allais dire, la situation. Donc c'est aussi une réponse de d'urgence. Que de reconnaître un État, c'est reconnaître des citoyens.
Sur la guerre de demain.
Voilà, sur les guerres de demain, vous avez tout à fait raison, il y a les drones, mais j'allais dire presque les drones, c'est, on est presque en train de s'y habituer, mais il y a eu ces fameuses enquêtes extrêmement poussées sur l'utilisation, l'usage des serveurs IA pour déterminer des cibles. Pour les gens qui ont enquêté jusque dans les centres de tir ceux qui pilotent les drones ne faisaient plus en fait que de rentrer des codes, et c'est la machine qui désigne les cibles et le drone qui tire. Donc ça aussi c'est une guerre de demain. Il y a aussi la question effectivement des médias, de la guerre informationnelle. 200, 230, 240 journalistes qui sont tués. Par rapport à la population de journalistes à Gaza, c'est une proportion insensée, y compris le taux de mortalité. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus morts que les autres, pour être clair. Et ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours dans l'hôpital de Rafah, cette fameuse double frappe, on a compris, et il y a des gens, y compris en Israël, qui ont fait cette enquête, qui ont dit en fait la double frappe, c'est une stratégie. Parce que la double frappe, ça permet de tuer proportionnellement beaucoup plus de secouristes et beaucoup plus de journalistes.
C'est les Russes qui
Pourquoi
l'ont inventé.
Ils l'ont inventé. Tous les gens qui nous écoutent peuvent le comprendre.
En Syrie.
Quand il y a une frappe, tout le monde s'en va. Sauf les blessés et les morts. Et qui est-ce qui converge vers la frappe ? Les journalistes et les secouristes. C'est les deux seuls qui y vont. Et donc la deuxième frappe tue proportionnellement infiniment plus de secouristes et de journalistes. Donc il y a des techniques, en fait, il y a des ingénieries dans cette guerre, qui sont aussi effectivement des ingénieries coloniales, Véronique Naoum-Grapp l'a dit. C'est sans doute pour ça que l'Afrique du Sud s'est particulièrement mobilisée. L'Afrique du Sud, d'abord, elle a des liens très anciens avec l'État d'Israël, de l'époque de l'apartheid. L'Afrique du Sud, elle est capable de lire une situation d'apartheid. L'Afrique du Sud, elle est ce très grand pays aussi d'Afrique, qui a un poids très très fort au sein de la communauté africaine.
C'est le premier pays qui s'est mobilisé en décembre 2023 auprès de la Cour internationale de justice pour la reconnaissance
tout
du
à fait,
génocide notamment.
Mais c'est aussi le premier pays qui s'est mobilisé parce que pour l'instant, l'État de Palestine n'a pas les capacités juridiques de porter sa propre voix. Donc c'est un autre État. L'Afrique du Sud ou d'autres, ou le Brésil, d'autres États du Sud global. Quand la Palestine aura les pleines capacités juridiques, elle pourra plaider sa cause devant la Cour pénale internationale de justice, devant les différents... Donc ça aussi, c'est important.
Véronique Naoum-Grapp.
Sur la guerre de demain, c'est une guerre syncrétique. C'est-à-dire que c'est comme cette cuisine où vous avez tout le monde entier. Vous avez le niveau de la série où les trois otages sortent, s'enfuient, habillés de blanc, arrivent vers l'armée qui doit les sauver, et les soldats israéliens leur tirent dessus. Ce sera dans une série. On rejoint la série cas par cas où le type qui se cache derrière trois piliers et qui tire, il ne sait pas trop où. Vous avez ce niveau-là, vous avez tous les niveaux de la guerre. Vous avez les généraux dans leur chambre qui se disent, qui regardent les cartes. Les généraux adorent les cartes géographiques. Il y a une folie des dirigeants, une dévoration des cartes comme si c'était leur propre corps. Après, il y a la guerre aussi. Et le niveau technologique où nous sommes arrivés, donc début du 21e siècle, premier tiers, est un niveau exceptionnel de compétences, de pertinence et de possibilités de surveillance et d'activité. Il est clair que pouvoir, par exemple, piéger un téléphone portable dans la poche de l'ennemi à 3000 km, à 800 km, c'est quand même assez extraordinaire. Et d'ailleurs, une dernière question, comment se fait-il que le Mossad, aussi génial dans le ciblage de ses ennemis, n'ait pas prévu le 7 octobre ?
Merci à vous deux. On a bien compris, merci, grâce à vous, qui est-ce qui faisait la singularité de ce conflit à Gaza, pourquoi il s'agissait d'un conflit à part. Véronique Naoum-Grapp, je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences sociales, en anthropologie. Vincent Lemire, historien, professeur à l'université Gustave Eiffel, spécialiste de l'histoire du conflit Israël-Palestine. Et merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Il s'agissait de Diane de Vincey, Mathias Mégy, Antoine Héral et Stéphanie Villeneuve. Après le journal, alors que Lucie, l'Australopithèque la plus célèbre de l'histoire, est exposée au Musée National de Prague, plongée dans la préhistoire justement pour se demander comment s'est construite durant cette très très longue période la domination masculine.